Bonjour. Alors un mot d'abord sur la séance de la semaine dernière. Vous avez dû noter de ma part un certain flottement. Mon diaporama s'était interrompu avant la fin. J'ai improvisé la dernière demi-heure. Et ça a un peu tourné au prêchi-prêcha. Alors, je vous dois un aveu. Je prépare mon cours toujours en deux phases. Il y a des lectures et des recherches très approfondies pendant tout l'été pour compléter mon fond. Et puis une mise en forme du diaporama qui est effectuée en fait au dernier moment, qui s'achève la veille du cours, voire le matin même, ce qui me permet d'intégrer, si nécessaire, des éléments d'actualité très récents. Et donc la semaine dernière, le matin du cours, j'ai fait le trajet en voiture depuis ma lointaine banlieue. Il faisait encore nuit, il pleuvait. J'ai heurté le ressaut d'un trottoir et mon pneu avant droit a éclaté. Et donc j'ai perdu du temps à changer ma roue sous la pluie. Alors plusieurs piétons qui accompagnaient leurs enfants à l'école toute proche m'ont souhaité bonne chance. Une personne qui avait manifestement les apparences d'un immigré s'est proposée de m'aider. J'étais en fin de processus, j'avais réussi à défaire le cric et donc j'ai chaleureusement décliné son invitation. Et puis je suis arrivé au collège avec un léger retard sans avoir pu achever la mise au point de mon diaporama. Alors vous voyez que pour être professeur au Collège de France, on n'en est pas moins homme et soumis aux contingences matérielles, mais vous me direz qu'un bon professeur devrait, en toute logique, mettre son cours à l'abri des contingences. Et en disant cela, vous aurez mille fois raison. Donc mes aveux n'ont aucune valeur d'excuse, mais en les formulant ainsi, je me demande même si mon éthos, au sens aristotélicien du terme, mon image, ma réputation, en sort grandie parce qu'un peu humanisée, ou inversement diminuée parce que ça ne donne pas une idée très convaincante de mon professionnalisme. Donc à vous d'en juger, puisque, vous l'avez compris, c'est l'auditoire. Hein, c'est l'auditoire qui décide. Et donc, j'avais ce jour-là utilisé une roue de secours qui était ma tchatche, en quelque sorte. Mais enfin, ça ne suffisait pas. Donc, j'arrête là cette explication et nous voici rendus à la dernière séance du cours de cette année. Nous avons réussi à nous retrouver en présence physique tout au long de ce trimestre, ce qui est un bel exploit. Je précise que les séances du séminaire vont encore se poursuivre dans la salle Alvax au mois de janvier, pour celles et ceux d'entre vous qui donc souhaitent approfondir la question. Je crois que ce sera particulièrement intéressant. Mais aujourd'hui, pour cette dernière séance du cours, le moment est venu de combler quelques lacunes, mais surtout de tenter une synthèse, de tirer quelques conclusions, même provisoires, sur le rôle de la rhétorique dans le traitement de la question migratoire. Et trois questions se posent. La première, pour prendre une syntaxe très à la mode en ce moment, les jeunes chercheurs l'utilisent beaucoup, qu'est-ce que la rhétorique fait au débat sur l'immigration? Et la réponse est assez simple. Au total, quand même, plus de mal que de bien. Je pense, par exemple, on verra toutes ces métaphores aquatiques, la submersion, l'invasion, les métaphores guerrières, etc. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut opposer les faits au discours? Est-ce qu'on peut opposer les résultats objectifs de la science aux affirmations péremptoires qui circulent dans le débat public? Et la réponse est oui, mais sous certaines conditions qu'on va essayer de préciser. Enfin, la rhétorique, comme science du discours, comme décryptage des procédés rhétoriques, doit-elle se contenter d'être purement descriptive? Doit-elle forcément se rattacher à un système de valeurs? Si les sujets ou les citoyens ont une certaine liberté de choix, comme c'est en principe le cas en bonne démocratie, eh bien le choix des procédés rhétoriques devrait aussi avoir une valeur éthique. C'est ma conviction. Et je pense que le débat sur l'immigration peut s'appuyer sur un certain sens des responsabilités. Alors, en formulant ces trois questions, je rappelle que la rhétorique peut être prise au double sens du terme. D'abord, la rhétorique comme pratique sociale, comme art du discours ou du contre-discours, comme on la voit se déployer chaque jour dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère scientifique, avec voilà, tous ces arguments, ces outrances, ces sophismes, mais aussi, j'essaie de voir le côté positif de la chose, la capacité qu'un bon usage de la rhétorique peut nous donner de mieux transmettre les résultats de la recherche, de resserrer le lien science-société, qui est un lien aujourd'hui tout de même très distendu. Et à côté de la rhétorique comme pratique, se dresse la rhétorique comme science critique du discours, la rhétorique comme science réflexive, ou discipline réflexive, méta-rhétorique finalement, qui est illustrée par toute une série d'analyses que j'ai essayé de vous présenter au cours des séances de cette année. Alors, qu'est-ce que j'ai évoqué rapidement? Et là, c'est une sorte de résumé rapide. J'ai commencé par évoquer le conte du paysan éloquent. C'est le plus long texte de la littérature égyptienne qui a été conservé. Il a exactement 40 siècles maintenant. Donc, du haut du conte du paysan éloquent, 40 siècles nous contemplent. Là, le conte est exact. Et ce qui est étonnant dans ce texte écrit dans la première période intermédiaire, à la charnière très troublée de l'Ancien Empire et du Moyen Empire, eh bien, on a une dénonciation très rhétorique, très balancée, très structurée, mais une dénonciation rhétorique des faux semblants de la rhétorique. C'est ça qui est particulièrement intéressant dans ce texte, puisqu'il y a une dénonciation de la rhétorique officielle, qui prétend s'appuyer sur la justice incarnée par la fameuse déesse Maat, la déesse qui pèse les bonnes actions, les mauvaises actions au moment du jugement dernier. Et donc, il y a une dénonciation de ceux qui prétendent incarner la justice alors qu'ils font le contraire de ce qu'ils disent. Je vous renvoie ici donc aux études de Laurent Coulon, qui est l'actuel directeur de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, qui avait fait sa thèse sur la rhétorique en Égypte ancienne, ce qui a renouvelé complètement la vision qu'on pouvait en avoir. Ça dénonce notamment la surdité des juges, le décalage entre le culte officiel de la justice et la pratique. Donc c'est une sorte de rhétorique anti-rhétorique. Et puis j'ai évoqué au passage, évidemment, la première sophistique qui est surgie au 5e siècle, voire au 6e siècle. Il faut inverser, c'est du 7e au 5e siècle avant notre ère. À l'origine, il s'agissait d'aider les citoyens spoliés par les tyrans à récupérer leurs biens dans l'enceinte des tribunaux, devant toute une assemblée qui pouvait renfermer plusieurs centaines, voire parfois plus de 1000 personnes. Mais aussi, plus généralement, l'idée, c'était d'émanciper les citoyens vis-à-vis des maîtres de vérité, vis-à-vis des oracles divins ou les discours d'autorité qui étaient proférés par la parole royale. Alors Platon a combattu les discours des sophistes dans plusieurs dialogues. Il les jugeait immoraux parce qu'ils sacrifiaient la vérité au nom d'un critère unique qui est le succès du discours, la capacité à persuader les juges par tous les moyens, quitte à supplanter la science des spécialistes. Et vous vous souvenez de l'exemple que j'avais cité, qui est un exemple qui figure dans le Protagoras de Platon, dans le dialogue de Platon, de Protagoras qui se flatte de convaincre un patient de se faire opérer par le fer et par le feu, alors que les arguments du médecin, eux, étaient restés impuissants, n'y étaient pas parvenus. Donc l'idée de Protagoras, c'est que l'art de la rhétorique peut être plus fort que la technique du spécialiste, ce que Platon rejette totalement. Et puis, bien sûr, nous avons abordé ce texte extraordinaire, qui est la rhétorique d'Aristote, chef-d'œuvre rédigé aux alentours de 335 avant notre ère. Enfin, il me semble que la rédaction ait été assez longue. Il a été complètement ignoré de son temps. Ce sont des notes qui, semble-t-il, ont été prises par des étudiants, mais ça n'a pas. Mais ce texte a néanmoins traversé les siècles. Et ça, c'est quelque chose de fascinant, la longue durée de certains textes. On peut encore lire Aristote aujourd'hui avec intérêt. Et cette longue durée des textes, elle n'a pas été vraiment problématisée de façon sérieuse. J'ai toujours été surpris de voir que Fernand Braudel, dans sa typologie des durées, n'avait pas inclus dans la longue durée la capacité de certaines institutions, de certains textes, à franchir les siècles. J'ai cité le comte de Loisien, 40 siècles. Là, on en est à moins, mais enfin, c'est quand même considérable. Il n'y a pas que la géographie pour installer des constantes de longue durée. Même si, évidemment, l'interprétation change à chaque génération, c'est évident. Alors, j'ai souligné à quel point la vision de la rhétorique d'Aristote, très influente jusqu'à nos jours, est une vision pragmatique qui distribue les types d'argumentaires, qui dresse une typologie des types d'argumentaires qui est toujours utilisée de nos jours, le logos, c'est-à-dire la raison, le pathos, c'est-à-dire l'appel aux émotions, et l'éthos, qui est le jeu sur l'image de soi ou l'image d'autrui. Tout cela, dit Aristote, n'est pas strictement séparé. Il y a des mélanges, il y a des dosages à faire, en tenant compte de l'auditoire. Et les trois auditoires qu'il prend comme exemple sont des auditoires très institutionnalisés, où l'individu est face à un groupe institutionnel, le tribunal, l'assemblée, ou voir le peuple entier, quand on a affaire à des discours épidictiques, c'est-à-dire qui essaient de célébrer les valeurs, de toute la communauté des citoyens. J'ai évoqué par prétérition seulement les traités qui, à partir du XVIe siècle, ont collectionné les fleurs de rhétorique, comme on les appelait, et qui finalement, par une réduction que Roland Barthes, dans un texte que je vous ai cité, a déploré, ont réduit la rhétorique donc à l'ornementation du discours, une ornementation qui devait toujours rester évidemment bienséante, convenable, selon les critères de l'époque. Mais j'ai également cité ponctuellement les recueils critiques de sophismes, de paralogismes, ce qu'on appelle les fallacies en anglais, ou de biais du jugement, ceux du chancelier Bacon, la logique de Port-Royal, Jeremy Bentham au début du XIXe siècle, qui lui avait noté pour lui-même les procédés utilisés par les parlementaires britanniques dans les débats, et puis Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison, qui est un texte assez connu, publié dans les années 1860. Et tous ces auteurs voyaient dans la rhétorique un arsenal de tactiques, de stratagèmes permettant d'avoir toujours raison, permettant à tort d'avoir toujours raison. C'était ça, évidemment, qu'il reprochait à ces procédés. Et très vite, dès le début, mais dès l'Antiquité, la critique de la rhétorique, consistant à dire « mais ce que vous faites là, c'est de la rhétorique », a existé, et elle existe toujours de nos jours, c'est évident. J'ai cité, mais sans pouvoir entrer dans le détail, je ne le ferai pas non plus aujourd'hui, toute la littérature anglo-américaine, essentiellement américaine, qui régulièrement publie des ouvrages listant les mauvais arguments, les fallacies. Là, vous avez 100 fallacies parmi les plus importantes dans la philosophie occidentale. Des catalogues de sophismes dans lesquels il y a tous les types d'arguments, les faits pervers, l'argument par la peur, l'argument par l'étymologie, l'argument par tous les arguments qui avaient été notamment notés par Hirschman, l'argument de la vanité de toute tentative, etc., etc. Et on trouve donc, voici les références des auteurs qui ont fait ça dans l'époque moderne, comme on dit, c'est-à-dire les 16e, 17e siècles, 18e. Et puis, nous avons évoqué ensuite la formidable résurgence de la rhétorique dans les années 50, que l'on doit d'abord à Chaim Perelman et Lucy Olbrecht-Titeka, le traité de l'argumentation, paru en 1958, qui va être... Alors, Perelman a publié 4 ou 5 œuvres qui développent un peu tout ça, mais la plus accessible, la plus brève, c'est l'Empire rhétorique, qui est un véritable résumé du traité de l'argumentation. Mais la même année, Stephen Stuhlmann, un philosophe, philosophe très influencé par Wittgenstein, et publie « The Uses of Argument ». Et l'idée, c'est qu'il y a une logique naturelle, je préfère dire une logique usuelle ou une logique pratique, qui n'est pas la logique logique, mais qui est celle qui fonctionne dans les argumentations ordinaires et qui ont pour caractéristique qu'elles peuvent s'appuyer sur des bases, sur des données, sur des textes, sur des faits, de manière à accroître le consentement des interlocuteurs. Et en fait, cet objectif est aussi celui de Perelman. Donc, par des moyens totalement différents, ces deux auteurs, la même année, ont une vision de la rhétorique comme technique de persuasion graduelle qui ne prétend pas donc asséner des vérités assertoriques, n'est-ce pas, comme on dit en philosophie, mais simplement accroître le degré de consentement des auditoires. Et puis, depuis les années 70, on a une longue série d'auteurs dont je vous ai parlé de façon plus précise, Albert Hirschman, Marc Angenot, Oswald Ducrot, Olivier Reboul, Christian Plantin, Douglas Walton, Ruth Amossi, Roselyne Coren, Ruth Vodak. Les trois dernières personnes vont être invitées au séminaire en janvier. Et je crois que ce sera vraiment des séances très importantes. Mais parmi les générations plus récentes, j'ai également fait venir des chercheurs ou des chercheuses tout à fait remarquables, comme Marianne Doury, dont je recommande le grand manuel chez Colin, intitulé « Argumentation », Damon Mayafre, qui est un spécialiste de l'étude des discours présidentiels et des discours parlementaires, Marie Veniard, qui a beaucoup analysé les mots de la migration, les discours sur l'immigration. Donc, je considère que tous ces jeunes auteurs apportent un complément absolument décisif à mon cours. Alors, la question qu'on peut se poser, la question majeure, c'est celle du lien entre vérité et vraisemblance, entre démonstration et persuasion, affirmation et revendication. Et chez Toulmin, notamment, la notion de claim est importante. On ne fait pas des propositions comme dans la logique ordinaire. On prétend affirmer quelque chose, mais enfin, cette prétention a un degré de succès variable qui va dépendre des éléments qu'on peut apporter à l'appui de ces revendications ou de ces prétentions. En allemand, c'est Anspruch qui est le terme utilisé pour décrire ces prétentions à dire quelque chose de vrai et d'intéressant. Et puis donc, finalement, le lien entre science et rhétorique. Est-ce qu'on peut déjouer les procédés rhétoriques les plus usés dans le domaine des migrations en s'appuyant sur l'analyse de l'argumentation dans le discours, illustrée par tous les auteurs que j'ai cités? Ou bien, est-ce qu'il faut contrer les stratagèmes rhétoriques en s'adressant à des démonstrations, en opposant non pas la rhétorique à la rhétorique, mais en opposant à la rhétorique des démonstrations de type démographique, économique, juridique, une question qui est brûlante en cette période électorale. Et au fond, la plupart des auteurs spécialisés dans l'analyse du discours ont plutôt creusé le fossé entre le vrai et le vraisemblable et finalement doutent de la capacité des scientifiques à affirmer des vérités qui pourraient intervenir dans le débat public. Or, ce qui me frappe beaucoup en ce moment, déjà depuis quelques décennies, c'est que le débat public, les protagonistes du débat public, les journalistes, les essayistes, les polémistes, etc., utilisent beaucoup les données quantitatives. Ce pic de démographie, par exemple, ont des raisonnements économiques, etc. Et d'une certaine manière, c'est le succès de la démographie en France, mais également dans d'autres pays, qu'on observe là, d'une certaine manière, la science démographique, l'économie, la géographie, etc., a pénétré le public à un degré qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et donc, du coup, nous n'avons pas affaire à de complets béotiens, à des ignorants complets. On a affaire à des gens qui ont une certaine idée de ce que c'est que le discours. Et Marianne Doury a beaucoup insisté là-dessus dans son séminaire. Il y a une certaine capacité des locuteurs ordinaires à évaluer la qualité des arguments, et à dire « mais ça, c'est un argument d'autorité, ça ne vaut pas, ça, c'est une mauvaise analogie, etc. etc. » Et entre la critique savante des arguments et la critique ordinaire des arguments, il y a souvent une différence assez mince, enfin, c'est parfois indiscernable. Donc, une véritable expertise ou compétence s'est développée, on le voit très bien dans les blogs d'interaction, enfin, de très fortes interactions, il y a une certaine capacité dans les polémiques les plus vives, à critiquer la valeur des arguments au nom d'une certaine typologie des argumentations qui est désormais assez, qui se répand de plus en plus, en tout cas. L'argument de la pente glissante, l'argument du doigt dans l'engrenage, par exemple, qui est un argument essentiel dans les questions migratoires, et c'est un argument qui est souvent identifié par les interlocuteurs eux-mêmes dans leur débat. Alors, vous voyez qu'il y a là deux angles d'attaque très, très différents, opposer la rhétorique à la rhétorique, ou bien opposer à la rhétorique des démonstrations, ce que Perlman, d'une part, mais Aristote déjà, avait un peu récusé. L'idée, c'était que, pour Aristote, c'est que seul le monde supralunaire, comme il disait, le monde des idées à la Platon, est valide pour entériner des démonstrations géométriques ou mathématiques, mais dans le monde des affaires humaines, dans lequel nous sommes obligés de vivre, le monde des affaires politiques, juridiques, on pourrait dire aujourd'hui économiques, etc., eh bien, ce n'est pas des démonstrations qui vont fonctionner, ce sont des argumentations qui jouent sur le vraisemblable, sur le plausible, sur le plus ou moins, etc. Alors, pour anticiper la conclusion sans plus attendre, je pense que l'un et l'autre, que ces deux angles d'attaque s'imposent, mais qu'il ne faut pas renoncer. Et là, évidemment, je suis démographe, j'ai longtemps travaillé dans les instituts de statistiques, je pense que la démonstration statistique garde une validité et qu'il faut savoir la présenter. Alors, il faut parfois de la rhétorique pour présenter le résultat d'une démonstration. La graphique, par exemple, fait partie de la rhétorique statistique. Il y a une certaine rhétorique statistique qui existe incontestablement, et c'est quelque chose dont les auteurs, dont les spécialistes de l'analyse du discours, ne parlent pas. Il y a une tendance pour eux à dire « Ah ben oui, vous faites une démonstration par A plus B, d'accord, mais là, on n'est plus dans le domaine de la rhétorique, on est dans un tout autre registre, et ça sort de mon champ de compétences. » Je pense que non, qu'il faut pouvoir réintégrer la démonstration, notamment quantitative, mais pas uniquement. On peut penser aussi à des démonstrations juridiques, à des références juridiques solides, et qu'il faut pouvoir réintégrer tout cela dans le domaine général du discours et du débat public. Et donc, je terminerai sur la question de savoir si la démarche scientifique, la démarche métarhétorique, c'est la démarche scientifique d'une part, mais la démarche métarhétorique de l'autre, peuvent légitimement avoir une valeur, et même avoir une valeur éthique ou morale, sans pour autant se départir de la quête d'une certaine objectivité. Donc, j'ai rappelé que... Alors, Marianne Doury disait également que non seulement il est fréquent dans les conversations ordinaires de critiquer la rhétorique d'autrui, mais on peut aussi, elle est une de celles qui a le plus porté cette discipline, certains spécialistes de l'analyse du discours analysent des corpus de textes. Ils constituent des corpus, lisent des textes, font des commentaires de blogs, etc. Et quelques-uns, une minorité, font du terrain, c'est-à-dire enregistrent des conversations ordinaires dans des commerces, dans des cafés, etc. Alors il y a toute une déontologie de cette pratique. Il faut toujours, et c'est le référent déontologique du CNRS qui le demande, il faut toujours à ce moment-là, on ne doit jamais enregistrer clandestinement les personnes. On peut le faire dans un premier temps, mais ensuite, on leur explique, voilà, je viens de vous enregistrer parce que j'analyse les conversations, ça m'intéresse, etc. Et la personne peut refuser que l'enregistrement soit utilisé. La plupart du temps, quand même, les gens acceptent si on leur fait bien comprendre l'objectif et évidemment l'anonymat aussi qui accompagne ce genre de travail d'enregistrement. Et ça donne des résultats tout à fait intéressants. Et Marianne Doury a notamment, sur les questions migratoires, enregistré des conversations extraordinaires. Mais elle insiste aussi sur le fait qu'on peut très bien débattre entre deux personnes sans qu'il y ait d'antagonisme entre ces personnes. Beaucoup de conversations consistent en quelque sorte à se conforter mutuellement dans un argumentaire et les répliques vont du genre « Ah ben oui, tout à fait, bien sûr, ah ben exactement, etc. Bon. » Et il y a une façon de renchérir dans la recherche des meilleurs arguments entre deux personnes qui sont fondamentalement d'accord sur tout. Et on peut même imaginer, mais ça Perelman, il faisait allusion, que l'auditoire se résume à ego, qu'en quelque sorte on se persuade soi-même, qu'on se chauffe soi-même, et que le monologue est pour fin de se mettre en accord avec soi-même. Donc la rhétorique devient évidemment omniprésente à ce prix-là. Je rappelle qu'il existait cependant chez Aristote une zone intermédiaire entre la logique et la rhétorique, qui est la dialectique. C'est une des choses les plus mystérieuses dans le fonctionnement d'Aristote. La dialectique procède par syllogismes bien construits, c'est ce que le Moyen-Âge a développé comme discipline. Donc la dialectique a connu un immense succès en Occident, au point de paralyser un peu la réflexion, et ce jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à Descartes au moins. Mais dans la vie courante, c'est là qu'Aristote est remarquable, et bien dans la vie courante, les locuteurs manie des syllogismes qui sont incomplets ou elliptiques, les fameuses antimèmes, E-N-T-H-Y-M-E-M-E, les fameuses antimèmes qui reposent sur des évidences partagées, sur des lieux communs, sur la doxa. Et le lieu commun dans l'Antiquité, c'est positif. À partir du moment où on peut s'appuyer sur une doxa commune, ça n'est pas négatif, on ne critique pas les stéréotypes, c'est plutôt positif. À l'époque d'Aristote, c'est un gage d'unité sociale, un gage d'accord. C'est assez tardivement que la doxa va être fortement critiquée, et je vous avais rappelé à quel point, comment Roland Barthes, de façon anachronique, interprétait les textes d'Aristote comme l'équivalent d'une rhétorique de la culture de masse, d'une culture de la répétition doxique, alors que, évidemment, à l'époque de la démocratie athénienne, les choses étaient quand même assez différentes. Alors, c'est une forme de logique, si l'on veut, mais une logique pratique, d'autant plus efficace que, justement, elle se situe souvent en deçà du discours et qu'il est très difficile, finalement, d'identifier les marqueurs linguistiques qui vont nous permettre de déceler les arguments. On peut faire, et ça a été fait X fois, analyser le lexique de tel ou tel président de la République, le vocabulaire de tel ou tel parti, etc. Mais détecter automatiquement par des critères informatiques le type d'argument, l'argument de l'effet pervers, comment le détecter automatiquement dans un texte. Je n'ai jamais vu d'auteur capable de le faire. Ce que Damon Mayafre nous a présenté au séminaire, la dernière séance du séminaire, c'est autre chose. C'est l'application d'une analyse des données à des textes qui sont numérisés, une analyse des données en profondeur, multiniveau, qui rapproche des segments de texte les uns par rapport aux autres, qui montre quelle est la structure des données, indépendamment de leur sens, parce qu'évidemment le programme n'a aucune idée du sens des mots, et qui est capable ainsi, de proche en proche, de montrer que tel ou tel discours est apparenté, est proche d'un autre discours. Et c'est ainsi que Damon Mayafre a pu montrer que les discours d'Emmanuel Macron empruntent des formes, des vocabulaires, des lexiques, mais aussi des structures grammaticales, des morceaux de phrases, aussi bien au discours de De Gaulle qu'au discours de Georges Pompidou, qu'au discours de Nicolas Sarkozy, etc. Et il calcule les proportions dans lesquelles ces différents discours des prédécesseurs se retrouvent dans les discours actuels de Macron, ce qui semble indiquer que les plumes qui travaillent pour Macron, il y en a 4 ou 5, hein, comme c'est le cas habituellement pour les présidents, eh bien, relisent les discours des présidents pour s'en inspirer, car parfois les rapprochements sont tels qu'on a du mal à imaginer que ça puisse être simplement le hasard ou une cause commune qui amènerait à prononcer le même discours. Donc, ce que fait Damon Mayafre ne consiste pas à identifier réellement des arguments. Ce qu'il a pu identifier, par exemple, c'est des rhétoriques du genre faire appel à des pronoms vagues, à des pronoms de collusion comme « on », à des pronoms comme « ça ». Voilà. Quand on est français, on ne sacrifie pas des moutons dans sa baignoire, disait Sarkozy. Il y avait tout un discours contre l'islam où il n'y avait quasiment pas le mot « islam », il n'y avait jamais le mot « immigration », mais le « on » et le « quand on », qui est l'édiction d'une norme, hein, était un marqueur linguistique qui permettait de repérer un certain nombre de raisonnements. Et Ludovic Lebar, qui a été le premier en France, premier statisticien, à analyser les discours de façon statistique, avait montré comment le « quand on » était un discours normatif extrêmement puissant. Et lorsque les paysans sont interrogés, les agriculteurs sont interrogés sur les raisons pour lesquelles ils sont opposés au divorce par consentement mutuel, c'était la réforme de M. Le Canu en 1976, donc c'est une enquête qui date de 1975, eh bien, la phrase, le morceau de phrase le plus significatif des agriculteurs, c'était « quand on ». Parce que leur phrase type, c'était « quand on est marié, c'est pour la vie ». Et ça ne consistait pas à dire je pense que, à mon avis, le mariage est indissoluble. Non, il n'y avait pas des phrases de ce genre. Il y avait quand on est marié, c'est pour la vie. Donc, une forme d'adage, en quelque sorte, une formulation quasi proverbiale de la norme, qui n'est pas la même chose que de dire il y a une norme et j'y souscris, et voilà, pour telle ou telle raison. Donc, j'avais été très, très frappé par l'exposé que Ludovic Lebart, L-E-B-A-R-T, avait donné là-dessus. Donc, Damon Mayafre et ses collègues statisticiens prolongent ceci, mais ça n'est pas une détection automatique des types d'arguments, comme l'argument de la pente glissante, les arguments par analogie, etc. Les marqueurs sont assez difficiles à identifier, parce qu'un même marqueur, et là c'est Marianne Doury qui en parle le mieux, je pense, dans son manuel, un même marqueur peut correspondre à des arguments très différents. Comme « mais », « parce que »,« pourtant », etc. Alors, la nouvelle rhétorique remise en chantier dans les années 1950 par Chaim Perelman et Lucie Olbrecht-Titeka n'a pas comblé le fossé tracé par la rhétorique d'Aristote entre le vrai et le plausible, entre la démonstration et la persuasion. Elle l'a plutôt creusé, et moi, ça me pose un problème, parce que je trouve que dans ce système-là, finalement, la démonstration scientifique n'a guère de place. Et il faut maintenant s'interroger sur est-ce qu'il existe ? Quelle est la place, en tout cas, qu'on peut donner à une preuve par la science ? Est-ce que dans nos débats, ça fonctionne ? Alors, il y a une analogie qui est assez intéressante. Si vous prenez le cas de la référence à l'ADN dans la justice pénale, là, vous avez manifestement, au fil des années, une extraordinaire progression du poids de la preuve scientifique dans, évidemment, dans une enquête, et au bout de l'enquête, dans la décision qu'un juge peut prendre. J'emprunte ces références, j'ai commencé par... Enfin, je les ai trouvées d'abord dans le site du master bilingue de droit de Nanterre, qui compare la législation anglaise et française à cet égard, et finalement, avec des formulations différentes, elle est assez proche, et elle consiste à dire ceci, eh bien, alors évidemment, en 1997, c'est un petit peu ancien maintenant, mais c'est justement un problème qu'on va soulever. Le principe, c'est qu'il y a une séparation stricte entre l'expertise et le jugement. Les preuves ne sont pas hiérarchisées. Le principe selon lequel le juge doit garder sa liberté d'appréciation reste entier. Et donc, le juge doit travailler toutes les preuves disponibles. Et c'est un travail de persuasion, d'explication et de légitimation. Alors là, vous voyez qu'on a de la rhétorique, là, très clairement, hein, dans cette affirmation-là. Et ceci a été formalisé dans une décision célèbre de la Cour anglaise, R ou Regina versus Doheny et Adams, qui pose le principe ou le risque de la prosecutor's fallacy, une accusation mal fondée, une erreur d'accusation. Et alors je traduis la phrase que j'ai reproduite en anglais. Evidence en anglais, ce n'est pas l'évidence, hein, c'est un élément de preuve. Hein, c'est ça la vraie traduction de evidence. Combien de fois on voit evidence traduit par évidence, c'est un faux ami typique. Evidence signifie élément de preuve. Donc la signification de l'ADN comme élément de preuve va dépendre de façon critique, de façon essentielle, de la question de savoir si quelque chose d'autre, si on sait quelque chose d'autre sur le suspect. S'il a un alibi convaincant à l'autre bout de l'Angleterre, en même temps qu'au moment du crime, eh bien, il apparaîtra hautement improbable, et vous voyez que c'est « highly improbable », hautement improbable, on reste dans la probabilité, hautement improbable qu'il puisse être tenu pour responsable du crime, malgré le fait que son profil DNA concorde. Voilà. Son profil ADN concorde. Bon, aujourd'hui, 25 ans après, on nourrit quelques doutes quand même sur cette affirmation à tout prix d'une séparation entre l'expertise et le jugement. Et 25 ans ont passé, évidemment, la police scientifique, l'expertise, etc., ont considérablement accru la valeur de la preuve. Alors, il y a tout un travail. Autrefois, ce qui rendait la preuve par l'ADN suspecte, c'était qu'il pouvait y avoir une contamination des échantillons, il pouvait y avoir une permutation d'étiquettes, il pouvait y avoir des erreurs. Mais enfin, maintenant, tout le marquage, évidemment, de ces traces ADN qu'on retrouve sur les lieux du crime a été considérablement amélioré. Et il est maintenant hautement improbable, pour utiliser cette expression, qu'il y ait une erreur d'imputation de l'ADN à la personne, simplement par erreur de manipulation. Alors c'est vrai que lorsque l'ADN est prélevé sur des corps anciens, qui ont plusieurs décennies de date, enfin d'ancienneté, là il peut y avoir des altérations, des contaminations, etc., mais les policiers et les juges le savent. Mais vous voyez bien que dorénavant, on voit que la preuve par l'ADN est difficilement réfutable. Et si le juge s'en prévaut, eh bien, ça, évidemment, ça légitime son jugement avec une force considérable. Donc il n'a plus la même liberté qu'autrefois pour hiérarchiser les preuves au nom de son intime conviction. Et s'il inversait la hiérarchie des preuves, ce serait quand même extrêmement problématique et on le lui reprocherait. Et du coup, la logique pratique à laquelle on a affaire ici, moi, elle m'intéresse, évidemment, parce que je ne dis pas que les preuves démographiques ont la même valeur que les preuves de l'ADN, mais enfin, tout ça se rapporte davantage au schéma de Toulmin qu'à un schéma dichotomique à la Perelman. Et je rappelle ce qu'était la structure argumentative de base selon Toulmin, qui est utilisée aujourd'hui dans les algorithmes permettant de calculer les degrés de sécurité de systèmes hautement sensibles comme le pilotage des avions, la sécurité des centrales, etc. Enfin, il y a eu une dérive assez étonnante du système de Toulmin vers ces systèmes de sécurité où les risques sont calculés non pas au millième, mais au millionième. Ce sont des millionièmes de parties, comme on dit, qui sont prises en compte dans le calcul des probabilités ou des risques. Un avion ne peut pas se permettre d'avoir une chance sur 100, ou 99 chances sur 100 d'arriver à bon port. Il faut que ce soit des risques au millionième. Il y a donc des barres qui sont fixées très très haut. Donc ça, c'est l'exemple canonique de Toulmin qui a été un schéma qu'il a publié, que Christian Plantin donc reproduit en le traduisant dans son dictionnaire de l'argumentation. Et je vous avais montré quels étaient les termes anglais originaux. On a une information de base. À l'autre bout, on a une proposition qu'on revendique comme étant vraie. Cette revendication peut être modalisée. Elle est valable tant qu'elle n'est pas réfutée par un fait contraire, du genre, si vous êtes né dans les Bermudes, vous avez toute chance d'être citoyen britannique, mais enfin, si vous êtes né de parents américains, là, il y a un rebuttal, il y a une réfutation qui va contredire le déroulement du raisonnement. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première colonne, c'est le fait qu'il y a une justification, on est tenu de se justifier. On ne peut rien affirmer sans justifier. Il faut être capable de justifier ce qu'on affirme. Et cette justification est encore plus forte si elle peut s'appuyer sur un backing, sur un support qui peut être un texte de loi, qui peut être une vérité, un décompte précis, une comparaison internationale, si on affirme quelque chose à propos de la France, etc. etc. Et évidemment, le démographe ou l'économiste, il va se situer dans un schéma comme celui-ci, qui est un schéma graduel, mais qui peut aller jusqu'à des degrés de vérification qui sont extrêmement élevés. On va en donner des exemples. Alors, est-ce que tout ça est applicable à la démographie des migrations? Le problème, c'est que la rhétorique peut aligner toutes sortes d'arguments, mais tous les arguments ne sont pas d'ordre rhétorique. Il y a des arguments qui sont d'ordre, qui dépendent des données, Mais c'est l'usage de ces arguments qui devient rhétorique si on l'insère dans un argument, dans une présentation, à l'intérieur d'un débat notamment un débat sensible, comme c'est souvent le cas en démographie. Et donc, comment le chercheur peut-il faire le tri entre des approches de type rhétorique et des approches de type scientifique? Comment peut-il faire le tri entre des entreprises de célébration ou de dénigrement d'un côté, et ces entreprises de dénigrement peuvent porter sur la qualité des chiffres, hein? Une réplique classique de Zemmour, c'est « j'ai d'autres chiffres que vous ». C'est une pratique courante. Il a aussi expliqué qu'il ne croyait pas au fact-checking. Et donc, de l'autre côté, le travail de démonstration, de réfutation. Alors, on va en donner un exemple, et là, je vais prendre un exemple dans lequel j'ai été pris moi-même, parce qu'après tout, il faut bien qu'à un certain moment, j'invoque, puisque j'avais annoncé qu'on parlerait de certaines polémiques. Et nous avions été plusieurs collègues de l'IRD, de l'Institut pour la recherche et le développement, des collègues africanistes, des collègues démographes. Nous avions été très frappés par le succès phénoménal du livre du journaliste. Alors, il est né en Allemagne, il a travaillé en France, et il est de nationalité américaine, donc Stephen Smith. Stephen Smith a écrit un livre qui a été publié en anglais, en allemand et en français, « La ruée vers l'Europe » est le titre français, « La jeune Afrique en route pour le vieux continent ». Ce livre, dès sa publication, a reçu toute une série de prix. Il y a eu le prix des affaires étrangères, remis par le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu le prix de la revue des Deux Mondes. Il a eu droit également à une mention extrêmement positive dans la bouche d'Emmanuel Macron lors de l'entretien qu'Emmanuel Macron avait donné au Palais de Chaillot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Donc, il y a eu un succès considérable. Marcel Gauchet a dit qu'il fallait absolument, toute affaire cessante, lire ce livre, que c'était le livre le plus important qu'il fallait lire, etc. Donc, un succès considérable et aucune voix ne s'était levée pour essayer d'analyser la logique du livre, de le contredire. C'était un livre où il y avait beaucoup de, non pas de name-dropping, mais je dirais du figure-dropping. Il y avait des quantités de chiffres qui étaient citées, comme ça, balancées dans le texte. C'était assez impressionnant. Et puis s'ajoutait à cela le fait que l'auteur se présentait comme professeur dans une université américaine, à l'université Brown, qui est une université tout à fait prestigieuse aux États-Unis. Et peu de gens avaient fait la vérification qu'en fait, il était professor of the practice, ou professor of practice. Les deux expressions existent aux États-Unis. Et aux États-Unis, la nomenclature des types de professeurs est extrêmement stricte, elle est très surveillée par les syndicats. Et professor of the practice, ben, c'est l'équivalent de ce qu'on a à Sciences Po, c'est-à-dire un maître de conférence qui donne des cours, qui n'a pas le droit de faire de recherche, c'est strictement interdit, et qui donne des cours en tant que praticien. Un journaliste, un administrateur, un chef d'entreprise peut, à Sciences Po, donner des cours, ou un juriste, donner des cours qui évoquent sa pratique, mais il ne va pas faire de recherche, il ne va pas entrer dans un laboratoire de recherche. Eh bien, aux États-Unis, c'était exactement le rôle de Stephen Smith. Il avait été journaliste au Monde, à Libération, dans des quotidiens prestigieux, et il se présentait à la fois comme universitaire et comme journaliste, ce qui, évidemment, et ça, c'est tout le problème de l'éthos, hein, le double éthos, c'est quand même très impressionnant. Hein. Là, on se dit qu'il est doublement compétent, parce qu'il a passé des années en Afrique comme journaliste, et qu'en plus, il est reconnu aux États-Unis comme professeur d'université. Mais bon, c'était professeur de practice. Alors, c'est des petits détails auxquels le lecteur ordinaire, ou même le journaliste ordinaire, n'est pas sensible, mais enfin, ce qui est quand même important, et je le regrette très souvent, les journalistes, et je m'excuse de généraliser, parce qu'un jour, une jeune journaliste m'a dit « Je suis vos cours avec beaucoup d'attention, mais alors vous dites tout le temps les journalistes, non, il y a des différences à faire dans le milieu des journalistes. » Je suis d'accord. Les journalistes, c'est comme les chercheurs, il y en a de bons et de mauvais. Il y a de tout chez les journalistes, il y en a de très consciencieux. Il y a certains qui sont capables d'écrire sur votre livre sans même l'avoir lu, et il y a d'autres qui prennent la peine de le lire. Rien que ça, par exemple, ça fait une différence entre les journalistes. Donc, j'ai lu attentivement ce livre et j'ai été assez édifié. Parce que d'abord, je me suis dit « La ruée vers l'Europe », c'est un titre d'éditeur. L'éditeur a voulu mettre un titre sensationnaliste. Or, pas du tout, l'expression « la ruée vers l'Europe » est hautement revendiquée par l'auteur dans l'introduction, elle revient à la fin du livre, et on explique même qu'il y a un mouvement irrésistible qui fait que les pays jeunes vont forcément migrer vers les pays vieux, la vieille Europe, c'est une expression très utilisée aux États-Unis, et Stephen Smith disait même « c'est inscrit dans la nature des choses ». Et là, je cite la version française. Parce que j'ai lu aussi la version allemande et la version anglaise. Il y a des différences de traduction assez amusantes, d'ailleurs. Ce ne sont pas exactement la reproduction du même ouvrage. En anglais, c'est « The Scramble for Europe ». « The Scramble », c'est la ruée vers, c'est la bousculade. Et en même temps, « The Scramble for Africa », c'était une expression qu'on utilisait pour décrire la formidable compétition des pays occidentaux qui se sont rués sur l'Afrique entre 1810 et 1914. Tous les pays européens sont entrés dans une très vive concurrence pour s'emparer de l'Afrique, avec des problèmes de jonction, fachoda. Bon, quand les Anglais ont rencontré les Français sur deux axes orthogonaux, « Scramble for Africa ». Donc, en fait, le titre fait allusion aussi au fait que désormais, il y a une colonisation à rebours. C'est ça que suggère le titre. Il n'y a pas seulement la ruée vers l'Afrique, comme ça existe autrefois, il y a désormais une ruée vers l'Europe. Et c'est ce que... Mais vous voyez que le sous-titre, « Young Africa on its way to the old continent » est toujours présente. Alors, ayant donc lu ce livre, j'ai publié en septembre 2018... un 4 pages dans le bulletin Population et Société de l'INED, l'Europe et le spectre des migrations subsahariennes, et j'explique que non, l'Afrique subsaharienne a beau avoir un taux de fécondité très important qui va doubler sa population d'ici 2050, c'est ce que les Nations Unies avaient établi, et c'est sur cette base-là que Smith écrit son livre, mais il représente 14%, l'Afrique subsaharienne représente 14% de la population mondiale aujourd'hui, ce sera 22% vers 2050. Mais est-ce que le nombre de migrants originaires de cette région augmentera? Dans quelle proportion? Alors, il devrait augmenter fatalement si on fait simplement une projection. On peut estimer qu'il y aura au moins un doublement des migrants originaires d'Afrique. Mais en fait, le scénario pour 2050 qui est envisagé par Stephen Smith va bien au-delà de ça, puisqu'il estime qu'il y aura 25% de la population européenne qui sera africaine et que ça dépassera même 30% pour certaines catégories d'âge. Et donc, du coup, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, le spectre de l'invasion est là. Et quand on regarde réellement les hypothèses qui ont été émises, on tombe sur quelque chose d'assez différent. Alors, je me suis aperçu que Stephen Smith ignorait totalement l'existence de la base bilatérale des migrations. En fait, il n'y a aucun travail statistique dans son livre, il n'y a aucune exploitation de données, il n'y a pas de travail statistique. Tout est de seconde main ou de troisième main. Et ça, c'était quand même important de le dire. Donc, pendant l'été, je me suis attelé à la base bilatérale des migrations, qui est, je vous rappelle, cette espèce de grande matrice qui croise les 200 et quelques pays et territoires d'origine avec les 200 et quelques pays et territoires de destination et qui nous indique au croisement de chaque case, enfin qui nous indique dans chaque case quel est le nombre de personnes qui naissent dans un pays, vivent dans un autre. Ceci est fait tous les 5 ans à peu près par les Nations Unies et certains chercheurs, moyennant des transformations statistiques un peu complexes, essaient aussi d'en déduire les flux annuels qui aboutissent à ces variations de stock pour utiliser le langage des démographes. Et donc, ce qu'on obtient comme résultat, c'est qu'en 2015, pour l'instant, les migrants, les personnes nées en Afrique subsaharienne représentent 1,5% de la population de la France, et en 2050, ils représenteront 2,9%. Donc, on est très loin des 25% annoncés par Stephen Smith. On voit que dans d'autres parties du monde, parce que ceci reprend en réalité l'ensemble de la planète, hein, ce schéma, On voit par exemple à l'extrême droite que les pays du Golfe, eux, bien verront des populations étrangères encore croître de façon très, très importante. Les personnes d'Asie du Sud, par exemple, au lieu d'être 17% représentent déjà 17% de la population qui vit en Arabie Saoudite, mais comme leur fécondité est en train de diminuer, ce sera un petit peu moins en 2050. On s'aperçoit que l'Europe du Sud est assez importante en Suisse, que l'Afrique du Nord, évidemment, est importante en France, mais enfin, ça passera de 4,3% de la population à 5,3%. Donc, oui, il y a une augmentation relative importante des subsahariens par rapport à d'autres phénomènes qu'on observe de par le monde, mais enfin, rien qui corresponde au scénario catastrophe de Stephen Smith. Alors, quand on détaille ces analyses, on s'aperçoit que, pour l'instant, 65% à peu près, c'est le cercle vert, des subsahariens ont migré vers un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Quand on y ajoute l'Afrique australe, la corne de l'Afrique, donc le reste de l'Afrique à l'exception du Maghreb et de l'Égypte, eh bien, oui, on arrive à 75% à peu près de la migration au sud du Sahara va dans d'autres pays du Sahara. Et j'avais regardé un certain nombre de données dans le passé et observé que le pourcentage de migration subsaharienne qui restait dans l'Afrique subsaharienne restait constant depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est une réfutation. En bon français, ça s'appelle une réfutation. C'est simplement une analyse. On dit, vous avez fait l'hypothèse X, Y, Z, mais vous n'êtes pas appuyé sur des données existantes. Je vous signale qu'il existe une base de données que l'on peut exploiter, et voilà ce qu'elle donne comme résultat. C'est ce que j'ai fait dans ces quatre pages. Et puis ensuite, j'ai fait un deuxième, alors c'est ça qui a déplu, j'ai fait un deuxième article dans La vie des idées, où là, je me suis dit, mais comment l'auteur en est-il arrivé à cette hypothèse? Quelles ont été ses sources d'inspiration? Et donc, quand on regarde très attentivement les notes, les auteurs cités, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, le cœur du raisonnement, c'est une analogie avec le Mexique. C'est l'idée qu'un continent qui se développe va dégager plus de migrations. Et ça, effectivement, c'est, en gros, c'est ce qu'on observe quand l'aspiration à migrer est nourrie par une augmentation des moyens, la migration augmente au lieu de se réduire. L'aide au développement a plutôt tendance à augmenter la migration qu'à la réduire, contrairement à ce qu'on croit. Donc Smith savait cela, il l'affirme assez hautement, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps chez les africanistes, chez les spécialistes, que dans un premier temps, en tout cas, l'aide au développement peut augmenter la migration parce qu'elle dote les personnes de moyens. J'avais été très frappé par le fait que Marcel Gauchet imputait à Stephen Smith cette découverte. Il disait que Stephen Smith a découvert que l'aide au développement, finalement, ou que le développement d'une région du monde peut accroître la migration au lieu de la réduire. Non, c'est quelque chose que tous les économistes du développement disaient déjà depuis fort longtemps et qui était parfaitement connu. Et là aussi, vous voyez tous ces transferts ou ces méconnaissances, ces transferts de compétences ou ces mal maîtrisés, qui sont frappants quand on essaie d'analyser le débat public. Et il y avait l'idée à cette époque-là que l'Afrique allait fortement se développer. L'Éthiopie, par exemple, était en pleine croissance et semblait être une sorte de sentinelle avancée du développement en Afrique. Bon, on sait ce qu'il en est maintenant. L'Éthiopie est dans une situation totalement désastreuse, ravagée par la guerre civile. Et on est loin des promesses qui existaient il y a 5-6 ans. Mais enfin, bon, nul ne peut prophétiser quoi que ce soit sur tel ou tel pays africain. Il y avait aussi, et donc l'idée c'était, l'Afrique va se développer très rapidement. Elle va se développer finalement, quand on regardait et comparait les données, à la vitesse de Singapour dans les années 60-70. Et ce développement accéléré de l'Afrique, qui était présenté en termes assez célébrateurs, et avec l'idée, vous voyez, je ne suis pas raciste, puisque je pense que les Africains vont se développer à grande vitesse. L'analogie était faite avec le développement du Mexique. Et un auteur littéraire, pas du tout scientifique, avait dans un éditorial que cite Stephen Smith fait cette règle 3, cette analogie, eh bien, si l'Afrique se développe au même rythme que le Mexique, alors il va y avoir proportionnellement une migration africaine vers l'Europe qui sera du niveau de celle qu'on observe aux États-Unis pour le Mexique. Et ça, c'est assez intéressant, parce que pour qu'un Américain essaie de comprendre, se forge une idée de ce que pourrait être l'avenir de la migration africaine, au fond, pour lui, c'est utile de faire un rapprochement avec le Mexique, parce que la migration qui est connue aux États-Unis, c'est évidemment la migration mexicaine. Donc il y avait dans cette analogie une façon, comme souvent dans les analogies, une façon de ramener l'inconnu au connu. C'est ça, notamment, l'aspect rhétorique de l'analogie, mais qui se fondait sur une conjecture extrêmement fragile, l'idée que l'Afrique allait se développer au même rythme que le Mexique. Le Mexique, je le rappelle, est actuellement sur l'échelle du développement humain, enfin, à peu près à la moitié, au niveau 5 sur une échelle de 10, alors que les pays africains sont au niveau 1 ou 2, la plupart du temps. Donc, pour que, en l'espace de 30 ans, les pays sautent en quelque sorte la moitié de l'échelle du développement et puissent ainsi dégager des surcroîts de migration, il faut quand même un certain nombre d'hypothèses assez fortes. C'est ce que je soulignais dans ce deuxième article. Je ne me contentais pas de faire une réfutation sur mes propres données à partir des données de l'ONU, mais je citais trois analyses qui allaient exactement dans le même sens que moi. En réalité, je n'avais rien inventé, d'une certaine manière. Je reprenais notamment une analyse du Fonds monétaire international. Je reprenais l'analyse de deux chercheurs, Hein de Haas, le grand professeur des sciences des migrations et qui était à Oxford à l'époque et qui est maintenant revenu dans son pays d'origine, les Pays-Bas. Il est professeur à l'Université d'Amsterdam. Et puis, je reprenais le Joint Research Center, le JRC. C'est un centre européen extrêmement important, puisque c'est la décision qu'a prise l'Europe de réunir tout un ensemble de chercheurs de différents pays européens. Ils sont basés notamment à Ispra, près du lac Majeur, mais ils ont encore trois ou quatre autres installations, dont une à Bruxelles. Et lorsqu'il y a des sujets importants, sensibles à traiter, eh bien, la Commission européenne demande au Joint Research Center de le traiter. Et le sujet avait été traité en 2018. Many more to come, est-ce qu'il y en a encore beaucoup plus qui devrait venir? Migration from and within Africa, la migration venant d'Afrique et interne à l'Afrique. Et dans ces études, eh bien, on rappelait cette vérité fondamentale que 75 à 80% de la migration subsaharienne va dans un autre pays d'Afrique subsaharienne. Et donc l'idée que leur croissance va nécessairement déborder chez nous, qu'il va y avoir nécessairement un déplacement naturel des pays les plus peuplés vers les pays les moins peuplés, cette métaphore du déversement, cette métaphore des vases communicants qui est extrêmement puissante, métaphore gravitationnelle aussi, comme on dit, ou gravitaire, eh bien, n'est pas vérifiée, et d'autant moins qu'il existe en Afrique des accords de libre circulation qui facilitent grandement la migration à l'intérieur de l'espace subsaharien. Donc, il s'agissait pour moi d'une réfutation, comme il doit en exister dans le monde de la recherche. Et évidemment, j'ai aussi souligné, parce que je pense que c'était mon droit de dire, bah, écoutez, quand on titre un livre « La ruée vers », on a une certaine responsabilité. Il est évident qu'un titre pareil caresse l'opinion publique dans le sens de ses peurs. C'est la formule que j'ai utilisée, formule qui m'a été beaucoup reprochée. Je n'ai jamais dit que Stephen Smith était raciste ou quoi que ce soit, parce que il aurait aimé que je le dise. Enfin bon, c'est un peu. Mais je n'ai jamais suivi cette ligne de raisonnement à aucun moment. J'ai simplement dit que ce genre de propos a pour effet, a pour objectif effectivement, faire monter les peurs vis-à-vis de l'Afrique. Et je n'ai pas été démenti par une interview qui a été donnée plus tard au Figaro, où Stephen Smith déclare « L'Afrique est une salle d'attente de 1,3 milliard d'habitants aux portes de l'Europe ». C'est quand même une formule très forte. On est là dans l'idée du barrage, n'est-ce pas, qui risque de céder si on y prend garde, des vannes qu'il ne faut surtout pas ouvrir. C'est quand même. Et d'ailleurs, la métaphore est intervenue dans pas mal de commentaires qu'a eu cet article. Bon, alors pourquoi un tel écart? Eh bien, je l'ai déjà expliqué. La base bilatérale d'immigration était ignorée, et ce n'était pas un raisonnement démographique qui était tenu, c'était un raisonnement économique. Il y avait un raisonnement démographique pour expliquer que la part des Africains dans la migration mondiale allait sans doute doubler, puisque leur part dans la population allait doubler, quelque chose comme ça, mais tout le reste la migration, le reste de la conjecture, était en fait une pure conjecture économique sur la vitesse phénoménale du développement de l'Afrique qu'on prophétisait. Voilà. En même temps, ce qui était très intéressant dans le livre de Stephen Smith, alors il y avait d'autres scénarios qui étaient prévus à la fin du livre, et l'auteur se défendra en disant « mais il y avait d'autres scénarios ». Le problème, c'est que le scénario mis en avant, c'est celui de la ruée, c'est celui qui figure sur le titre, c'est celui qui est dans l'introduction, et donc il y avait un choix entre les différents scénarios qui étaient faits. Enfin, je ne vais pas insister là-dessus. Mais il y avait une autre thèse intéressante qui, là aussi, relève de la rhétorique, qui est le sophisme du gâteau à taille fixe. On ne peut pas, s'il y a un développement de l'Afrique, alors ce sera funeste pour nous. Il y a l'idée qu'il y a un partage du gâteau et qu'on ne peut pas imaginer une dynamique commune qui profiterait aux deux continents, ce sera nécessairement. Et là, il y a une thèse qui est très en faveur dans le monde anglo-saxon, mais qui maintenant est très présente dans le débat public français également, la fameuse thèse de Friedman, consistant à dire que l'immigration massive n'est pas compatible avec la préservation de l'État-providence. Une thèse qui a été une fois de plus examinée et réfutée par l'OCDE dans son dernier rapport, le rapport publié en octobre 2021, qui calcule en fait qu'il n'en est rien et que, certes, les immigrés en moyenne, cotisent moins que les actifs d'origine française, par exemple, si on prend mais l'analyse de l'OCDE couvrait tous les pays de l'OCDE, y compris la France, mais ils sont rassemblés dans une tranche d'âge active, leur pyramide des âges des actifs est beaucoup plus concentrée sur les âges actifs que ne l'est l'ensemble de la population. Les retraites qu'on leur verse sont des petites retraites. On ne paie pas beaucoup leurs frais de scolarité enfin pour la jeune génération. Et donc, du coup, ils sont cotisants, ils sont producteurs, ils sont contribuables. Les patrons versent des cotisations pour leur retraite. Quand on prend tout ça en compte, l'OCDE calcule que l'immigration nous rapporte davantage qu'elle ne coûte quand on prend comme critère les prélèvements sur le budget public, essentiellement la protection sociale. Ces démonstrations ont déjà été faites 3 fois, 4 fois par des économistes, par les économistes du CPI, par France Stratégie avait il y a quelques années fait toute une synthèse, une revue de la question sur ce sujet. Le Parlement français avait lancé une mission d'enquête sur les coûts de l'immigration. J'avais été d'ailleurs reçu par cette commission, qui était une commission d'enquête. Il fallait prêter serment quand on déposait devant cette commission. Et la commission a conclu que finalement le rapport de France Stratégie était tout à fait recevable, décrivait bien la situation et qu'en fait le coût de l'immigration sur le budget public était infime, enfin varié dans des proportions très très faibles et que le problème n'était pas là. Bon, on a beau répéter 3 fois, 4 fois ce genre de démonstration, vous voyez bien qu'effectivement dans le débat public, ça a du mal à percer. J'avais reçu également une objection de Michèle Tribala, qui est donc ancienne démographe à l'INED, qui a soutenu avec une certaine vigueur la thèse de Stephen Smith et qui a tenu un raisonnement qui consistait à dire « mais quand on regarde depuis 1980 la croissance de la population subsaharienne chez nous, elle est multipliée par 5, c'est la courbe bleue, alors que la population africaine, subsaharienne, africaine hors Maghreb, c'est la même chose, elle n'a été multipliée que par 2,5. Donc, croissance plus forte des subsahariens chez nous que la croissance globale de la population subsaharienne dans les pays d'origine. Et donc, cet argument a fait dire à certains, vous voyez, réfutation pour réfutation. Bon, moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant d'avoir ce genre d'argument, et j'y ai répondu. Et donc, l'idée, c'est, ce décalage, cette croissance proportionnellement plus forte de la population subsaharienne en France par rapport à ce qu'elle est dans les pays d'origine, c'est nécessairement l'annonce d'une sur-migration subsaharienne. Le problème, c'est que il faut faire la preuve par le contraire. Il faut regarder ce qui se passe pour d'autres communautés. Et quand on fait ce travail, on s'aperçoit que certes, l'Afrique subsaharienne a, depuis 1982, été multipliée par 5 en termes d'effectifs. Alors là, les données portées jusqu'en 2014, mais je vais vous présenter tout à l'heure un schéma plus récent. Mais vous prenez les Britanniques, et ils ont été multipliés par 4,5. Les Roumains ont été multipliés par 8. Les Haïtiens par 10. Les Chinois par 16. Et personne ne va en conclure qu'il y a une ruée des Chinois vers l'Europe, une ruée des Haïtiens, des Roumains, etc. Donc ce raisonnement, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a toujours, dès qu'une communauté apparaît, il y a toujours un surgissement important, une multiplication importante des effectifs quand une communauté étrangère commence à apparaître. Ça a été le cas aussi pour les Portugais, le moment venu, ça a été le cas pour les Espagnols, etc. Mais ensuite, ce rythme, et on le voit déjà dans certaines courbes, ralentit, parce qu'effectivement, on ne peut pas projeter des vitesses de propagation, des taux d'émergence, enfin, on ne peut pas projeter la situation de l'émergence pour les décennies à venir. Et j'ai actualisé le schéma jusqu'en 2017, alors je l'ai publié dans la troisième édition refondue de Parlons immigration en 30 questions, où là, j'ai encore ajouté le Brésil. Les Brésiliens ont été multipliés par 11-12. L'Afrique subsaharienne est donc à 6, quelque chose comme ça. Et vous voyez un peu, oui, c'est un schéma classique. Chaque fois qu'une communauté apparaît dans un pays étranger, eh bien, le rythme de croissance au départ est extrêmement fort. Puis ensuite, eh bien, il se stabilise et personne ne peut prédire à partir de ces 20 premières années, ce qui lancera de la population de ces migrants dans les années à venir. Alors, on va maintenant se livrer à un exercice, je ne sais pas comment le qualifier, salutaire, disons. Je vais analyser quelques éléments du discours du meeting de Villepinte, qui date donc du 5 décembre 2021. Là, vous voyez mon intérêt pour traiter l'actualité. Et sur 5 ou 6 diapositives, nous allons examiner un certain nombre d'aspects de ce discours, qui est un discours très bien rédigé, hein, d'un strict point de vue rhétorique. C'est un discours qui est très travaillé, hein, avec toute une série de procédés rhétoriques extrêmement soignés. Enfin, je ne sais pas si c'est lui-même qui l'a rédigé. Enfin, il a dû mettre la main à la plume, évidemment, mais il a dû être assisté aussi. Et il y a dans ce discours d'abord tout un aspect épidictique. Hein. Vous savez que pour Aristote, le discours épidictique, c'est le discours qui s'adresse au peuple tout entier. C'est Périclès faisant l'éloge des soldats athéniens morts au combat et exaltant les valeurs du pays. Angela Merkel, je l'avais souligné à un certain moment, dans son fameux discours de la fin août 2015, « Wir schaffen das », consacre des portions importantes du discours à exalter la capacité de l'Allemagne à fédérer toutes ses composantes pour aider les migrants. Et donc il y a un éloge de la capacité de l'Allemagne à se mobiliser, à mobiliser toutes ses institutions et à travailler ensemble, l'État fédéral, les États fédérés, les institutions de toutes sortes, les communes, les associations humanitaires, les églises, etc. Tout ceci va travailler la main dans la main. Donc, j'ai signalé que des discours épidictiques, nous en avons souvent. Le discours d'hommage à Samuel Paty rentrait tout à fait dans ce registre. Le discours d'hommage à Jean-Paul Belmondo également, etc. Enfin, nous avons Joséphine Baker, etc. Nous avons tout un ensemble de discours épidictiques où un représentant de la nation s'adresse au peuple tout entier pour exalter ses valeurs et renforcer son adhésion aux valeurs. Donc, Zemmour se livre à cet exercice et son système, ça consiste à exalter la France, à exalter le peuple français, mais alors avec un sens de l'hyperbole, qui est assez impressionnant. Ce peuple extraordinaire, donc le peuple français, a une capacité de résistance unique dans l'histoire de l'humanité. La France aurait dû disparaître de nombreuses fois, mais à chaque fois, nous avons tenu, à chaque fois, nous sommes revenus. Vous voyez ce « nous » qui essaie donc de fédérer, n'est-ce pas, l'ensemble du peuple, son histoire, etc. Bon, vous montrez cette phrase aux Américains qui ont quand même réussi à se sauver de la guerre de sécession, aux Mexicains, aux Allemands, aux Espagnols. Enfin bon, chaque pays a le sentiment d'avoir accompli un parcours unique. On appelle ça en Allemagne le Sonderweg, le chemin spécial. Chaque pays est convaincu d'avoir suivi une trajectoire spéciale dans l'histoire. Il y a même des pays qui sont convaincus d'être un peuple élu, en quelque sorte. Donc voilà, nous avons tenu, nous sommes revenus, etc. Ce pays de scientifiques qui ont transformé le monde et ce pays d'écrivains qui l'ont fait rêver. Donc là, même chose, hein, c'est toujours la preuve par le contraire ou la comparaison internationale. Les Allemands ont pas mal d'écrivains, me semble-t-il. Enfin bon. Mais j'ai entendu un jour Zemmour dire « Nous sommes le seul pays à avoir autant d'écrivains ». Alors, je pense qu'il va falloir lui offrir à Noël un cadeau. Un très beau cadeau, ce sont les volumes, et je vous signale ça, ce sont les volumes de la Pléiade, anthologie de la poésie allemande, anthologie de la poésie espagnole, anthologie de la poésie anglaise, etc., qui sont des bilingues, hein, ce sont des livres bilingues, tout à fait extraordinaires, c'est une très belle idée de cadeau, hein, vous n'êtes pas venu pour rien, une fois de plus. Et quand vous lisez l'anthropologie de la poésie allemande, c'est extraordinaire. Vous découvrez que dès le Moyen-Âge, il y a un usage de la nature pour exprimer les sentiments les plus profonds, qui est d'une finesse, d'une ironie, d'une profondeur extraordinaire que les poètes français n'avaient pas au même moment. Chaque littérature a un peu sa spécialité, chaque littérature a sa façon de faire, il y a des traditions qui ont été différentes. Mais bon, mais dire exalter, certes, ce pays de scientifiques, alors bon, Einstein n'était pas français, n'a pas été très bien accueilli en France. Voilà, on peut, bon, je ne vais pas m'amuser à contredire dans le détail, mais enfin, vous voyez, il y a quelque chose de puéril dans cette façon de s'auto-exalter comme ça, comme si on était seul au monde. Nous ne sommes pas seuls au monde. Nous sommes en réalité, des savants ont beaucoup circulé à travers l'Europe, à travers les océans. Et voilà, nous avons accueilli Léonard de Vinci, certes, mais enfin, Dante n'était pas français. Et voilà, enfin, on peut se perdre, n'est-ce pas, à l'infini dans ce genre d'argumentation. Ça n'a aucun sens, tout simplement, de se dire que nous sommes uniques. Alors ça continue, ce pays unique au monde, ce parfait équilibre entre la beauté et la force, entre l'élégance et la rigueur, entre l'instinct de survie et la générosité, entre la liberté et l'égalité, entre le génie et la légèreté. Donc là, on rejoint un peu ce que Marie Vognard, dans sa séance de séminaire, nous avait expliqué, hein, ces appariements, hein, qui, et derrière ces « et », il y a aussi des « mais » qui se profilent. Bon, enfin. Ce peuple français qui est là depuis 1000 ans et qui veut rester maître chez lui encore 1000 ans n'a pas dit son dernier mot. Alors, vous savez d'où vient la phrase « n'a pas dit son dernier mot », qui est donc « la France n'a pas dit son dernier mot », c'est le titre, mais c'est une phrase extraite de l'appel du 18 juin. Hein. De Gaulle commence par décrire l'ampleur de la défaite en une dizaine de lignes, et puis à un moment, il dit « mais la France n'a pas dit son dernier mot », et c'est le « mais » du sursaut, hein, c'est le « mais » de la réaction. Donc là, l'auteur se prend pour De Gaulle, et donc, évidemment, le problème, c'est qu'était la France il y a 1000 ans. Je vous invite à regarder dans le Petit Larousse les cartes de la France aux alentours de l'an 1000. Il manquait les trois quarts des provinces qui actuellement font partie du territoire, provinces qui ont été acquises un peu par mariage, mais beaucoup par la force. Et là, je vous renvoie au cours que j'avais donné il y a 2 ans, hein, où je m'étais fondé sur Eugen Weber, sur l'histoire de la fabrication de la France au XIXe siècle, qui concluait son livre en disant que la France était une sorte d'empire colonial, que nous avions peu à peu conquis toute une série de provinces, à un moment d'ailleurs, on les conquiert par la fin, à un moment Louis XIV était prêt à céder l'Alsace en échange de territoires bourguignons ou flamands, je ne sais plus trop. Enfin bon, c'était des... Et il y a eu toute une discussion extrêmement intéressante faite par les grands historiens romantiques dans les années 1830, par des gens comme Guizot, pour dire « mais toutes ces provinces ont été conquises par la force, il faut maintenant les intégrer, il faut les assimiler, et c'est seulement lorsque ce rapport de force qui a réuni les provinces sera oublié que véritablement nous serons la France. » Donc tout l'effort de Michelet, de Guizot, etc. pour unifier le pays, c'est un effort qui est aussi un effort d'amnésie et d'amnistie. Hein, je rappelle que tous les traités, le traité de Westphalie, mais tous les traités de l'époque moderne, au sens que donnent les historiens ce mot, sont des traités dont les premiers articles consistent toujours à dire « on va oublier, on va effacer tous les crimes de guerre, on va oublier toutes les horreurs qui nous ont permis de refaire la carte de l'Europe de telle ou telle façon. Amnistie, amnistie, personne ne sera pour être condamné pour crimes de guerre. » Et Renan, dans sa conférence de la Sorbonne de 1882, a finalement le même argument. Ce qui unit un peuple, c'est les épreuves qu'il a traversées, mais de façon contradictoire, il faut oublier les sujets qui fâchent. Il faut entretenir une certaine amnésie, et il ne faut pas remuer le passé le plus douloureux. Et il donne comme exemple la prise des pays cathares. Il faut surtout, ça ne peut intéresser que quelques spécialistes, explique Renan, il ne faut surtout pas que les Français se repenchent encore sur la conquête du Midi par le Nord, qui a été vraiment épouvantable, etc. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, les pays cathares sont devenus des foyers touristiques extraordinaires et que la mémoire d'un pays ne s'efface pas comme ça. Et toutes ces mémoires sont entretenues et je peux vous dire que, moi, en tant qu'Alsacien, il existe toute une littérature en Alsace qui rappelle que l'Alsace a été conquise par la force et qu'ensuite les juristes avec des chambres de réunion, comme on disait, sont venus légitimer tout ça. Enfin, un beau matin, l'armée de Louis XIV est arrivée devant les portes de Strasbourg avec 40 000 soldats et a convoqué les magistrats, comme on les appelait, c'est-à-dire les représentants de la ville libre de Strasbourg, en leur disant « écoutez, remettez-nous les clés de la ville, sinon ça va barder ». Et comme on avait déjà détruit une série de villes, comme la ville de Haguenau, par exemple, qui était une des plus belles villes d'Alsace, qui a été totalement détruite par les troupes de Louis XIV, les Strasbourgeois se sont pliés. Leurs défenseurs du Nouvel Empire, qui étaient à Salzbourg, n'ont rien pu faire pour empêcher l'annexion. Cette annexion a donné lieu à une lettre extraordinaire aux remontrances de Fénelon. Il faut lire les remontrances de Fénelon adressées à Louis XIV et au dauphin sur la façon dont les exactions, l'emploi de la force, a permis d'étendre le territoire aux provinces. J'ai aussi rappelé dans ce cours, et je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus, que lorsqu'on a annexé la Savoie au temps de Napoléon III, il y a eu 98,5% de votes oui, mais il n'y avait pas de bulletin non. Et la presse anglaise et américaine qui est allée en Savoie a tourné en dérision cette opération. D'autant qu'il y avait tout un mouvement en Savoie pour que la région soit rattachée à la Suisse et non pas à la France. Donc on a noyé tout ça et l'annexion est devenue ensuite la Réunion. Mais bon, c'est comme ça que... Donc tout ce passé est là. Eh bien, quand on est adulte, on peut regarder le passé en face, de même qu'on peut regarder le passé colonial en face. Voilà. On peut penser que la Turquie se grandirait à reconnaître le génocide arménien, que la France se grandirait à reconnaître tel ou tel massacre qui ont eu lieu dans les colonies, que ça n'est pas nous déprécier que de regarder la réalité historique en face, mais que c'est au contraire en prendre toute la mesure et savoir en tirer les leçons. J'ai toujours été très étonné de voir à quel point cette histoire pour enfants, cette histoire de France pour enfants qu'on veut nous raconter, est complètement... à quelque chose ne prend pas au sérieux la maturité qu'on peut avoir par rapport à son passé. Et ceci est vrai de tous les pays, bien sûr, pas seulement de la France. Alors, dans le meeting de Villepinte, il y a toute une rhétorique, alors proprement statistique. Il y a le maniement des chiffres absolus, et là, Marianne Doury a signalé dans son cours et dans son manuel à quel point toutes les soirées électorales vous offrent le spectacle pitoyable du jeu sur les chiffres absolus et les chiffres relatifs. Hein, certes, je n'ai eu que 2% des voix, mais ça fait 600 000 électeurs. Ou encore, plus subtil, oui, j'ai baissé un pourcentage depuis la dernière élection, mais j'ai augmenté en nombre de voix. Bah, oui, parce que la population du pays s'est accrue entre-temps. Hein, bon, donc, on a constamment, moi, ça me désole toujours en tant que statisticien, le spectacle du maniement des chiffres absolus par rapport aux chiffres relatifs. La démocratie, c'est des chiffres relatifs. C'est un pourcentage, hein, c'est une majorité qui doit l'emporter. Alors Zemmour a utilisé un procédé qui est très, très classique, qui existe depuis longtemps. En 2019, la France a laissé entrer légalement sur son sol entre 350 000 et 400 000 étrangers, soit bien plus que la ville de Nice, qui est pourtant la cinquième ville de France. À l'horizon d'un quinquennat, cela représente près de 2 millions d'entrées, l'équivalent de la ville de Paris. L'enjeu de la prochaine élection présidentielle sera de savoir si nous voulons en laisser entrer 2 millions de plus durant le quinquennat prochain. Alors cet argument, il est archi-classique, c'est peut-être bien la dixième fois que je le retrouve. Il a été fact-checké, si j'ose dire, par plusieurs quotidiens, déjà à plusieurs reprises, mais rien n'y fait. On revient sur ce procédé. Alors 350 000 et 400 000, il y a 270 000 titres de séjour. Il précise que ce sont les entrées légales. Il y a à peu près 100 000 Européens, membres de l'Union européenne, qui s'installent en France chaque année. Donc on arrive à peu près à cette fourchette-là. C'est plus que la ville de Nice. Et si on somme tout ça, ça fait 2 millions d'entrées. Alors ce genre d'argument, c'est Éric Besson qui avait commencé. Il citait beaucoup la ville de Rennes. La ville de Rennes, tout le monde a fini par connaître la... La population de la ville de Rennes, c'était 250 000 habitants à l'époque où les titres de séjour chiffrés atteignaient ce montant. Claude Guéant l'a beaucoup utilisé, Sarkozy aussi, Marine Le Pen. Enfin, voilà, c'est le côté répétitif qui est assez impressionnant. Alors en fait, le procédé consiste à ne compter que les entrées et jamais les sorties. Or, en gros, un peu partout dans toute l'immigration, il y a 2/3 des personnes qui restent et 1/3 qui sortent, hein, à peu près. Et c'est ce que. Et du coup, on profite d'une lacune statistique. Il n'y a pas d'enregistrement systématique des sorties, effectivement, personne par personne, contrairement au titre de séjour. Hein, il n'y a pas de désinscription, contrairement à ce qui se passe dans les pays qui ont des registres municipaux qui concernent également les étrangers. Mais on profite d'une lacune statistique que, par ailleurs, on dénonce. Souvent, les mêmes personnes qui dénoncent l'absence, qui dénoncent l'obscurité complète qu'on a sur les sorties, utilisent cette lacune pour grossir les chiffres et faire comme si les migrants ne faisaient que s'accumuler. Et puis, on omet de signaler que cette lacune, en fait, est désormais comblée par l'INSEE, puisque l'INSEE a un recensement par rotation annuelle. Et j'ai publié, dans Parlons immigration en 30 questions, le schéma qui décompose le solde migratoire en fonction des origines et en incluant les Français natifs. Alors vous voyez que pendant longtemps, jusqu'à la fin des années 90, tous les soldes migratoires, que ce soit ceux des étrangers ou ceux des Français natifs, évoluent un peu dans le même sens. Et c'est à partir de 2000, surtout à cause des étudiants français qui s'expatrient, que les deux courbes s'éloignent. Dans les dernières données dont on dispose, on a l'effet du Covid qui fait que les départs des Français ont été considérablement ralentis. Donc oui, il y a un solde des Français qui est où les départs, donc c'est 100 000 Français qui partent chaque année, qui sont partis en tout cas en moyenne dans le quinquennat 2010-2015. Pour 50 000 Maghrébins qui sont entrés en solde, 25 000, etc. Donc ces données, on les a, hein, elles sont tout à fait connues. Et il faut bien comprendre qu'effectivement, la somme de toutes les entrées, de toutes les entrées d'étrangers n'atteint pas les 400 000 qui sont désignés par Zemmour. Alors, mais l'image de la ville, pourquoi fonctionne-t-elle comme ça? Pourquoi y recourir à ce point-là? Qu'est-ce qu'elle signifie? C'est une analogie, donc en principe, ça veut dire que les immigrants de l'année sont à la France ce que la ville X est à la France. C'est une comparaison à terme. Mais ce qui est suggéré, c'est évidemment que ce que la ville X est à moi, parce que ça rapproche, hein, ça rapproche de l'individu, là. la fraction de population que l'on considère. Et une ville, je peux me représenter en gros ce que c'est qu'une ville, mais que 400 000 personnes, ça représente 0,3% du pays, ça, je ne me le représente pas. C'est évidemment, or, c'est ça. Donc, la représentation en pourcentage, évidemment, donne une toute autre idée. C'est du 0,3 ou du 0,4% de la population, de surcroît de population, alors qu'évidemment, 400 000, c'est un chiffre qui pèse, parce que je peux me représenter autour de moi ce que seraient 400 000 personnes. Voilà, et donc, du coup, ça crée un sentiment de pression intolérable. Bon, dans les cours de statistiques qu'on donne, dès la première année, on dit aux étudiants, ne faites jamais ça. C'est un procédé qui n'est pas applicable. C'est pas... De la même façon, une statistique que les journalistes adorent, les journalistes, beaucoup de journalistes, c'est il se passe ceci toutes les X minutes. Toutes les 10 minutes, il y a une femme victime de... Bon, etc. Le problème, c'est que ça n'a aucun sens pour faire une comparaison entre pays, puisque une population comme celle des États-Unis avec 330 millions d'habitants et la France 60 millions d'habitants, ce qui se passe toutes les 10 minutes dans un pays n'a absolument pas la même signification que ce qui se passe toutes les 10 minutes dans un autre pays. Donc là aussi, c'est ce qu'on apprend aux étudiants en statistique, ne faites jamais ce genre de statistiques-là. Laissez ça aux journalistes, mais ne l'appliquez pas, vous, dans votre travail. Bon. Alors, la conclusion du meeting de Villepinte est très intéressante. Ce sont les dernières phrases. Le peuple français se tient face à tous ceux qui veulent le faire disparaître, face à tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur, ce peuple français qui ne baissera jamais les yeux face à ceux qui ont juré sa perte. Oui, la France est de retour, vive la République et surtout, vive la France. Alors, on a pas mal commenté cette dernière phrase qui, évidemment, est quand même assez particulière parce que la France est quand même une république. Et c'est aussi une démocratie sociale, une démocratie... Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais ce qui est très frappant, là, c'est vraiment la théorie de la conspiration. Tous ceux qui veulent priver ses enfants d'héritage et de grandeur. Là, on est typiquement dans la théorie conspirationniste, la théorie du complot. Alors, certains arguments d'Éric Zemmour sont encore plus simples que ça. Et il y a une phrase dont il est coutumier, hein, « ben voyons ». On lui dit « vous êtes raciste » et il réplique « ben voyons ». Bon. Alors, « ben voyons », c'est un peu une antiphrase. C'est en tout cas une façon d'exprimer son scepticisme radicalement. Et alors, du coup, c'est devenu vous savez, les formules magiques, les formules qui détournent la conversation, les formules apotropaïques, comme disent les spécialistes des rituels religieux. En ce site particulier, c'est que quand vous avez une formule qui est inscrite sur un talisman qui a été créé moyennant un rituel, l'objet qui est là sur votre poitrine continue d'agir. Un rituel l'a fabriqué, une phrase est écrite sur l'objet, et cette phrase, eh bien, parce qu'elle a été apposée rituellement, elle va continuer d'agir. C'est encore mieux que le moulin à prière, parce que le moulin à prière, il faut faire un effort pour tourner la machine, alors que l'amulette, elle continue d'agir, vous n'avez plus rien à faire. C'est tout le problème des objets. La loi française sur les objets religieux ostensibles, elle partage un peu cette mythologie-là, l'idée qu'il y a un prosélytisme des objets, l'idée qu'il y a une action des objets, l'idée qu'il y a une magie des objets par eux-mêmes, indépendamment des intentions de la personne. Elle n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'elle veut dire. L'objet s'en charge à sa place. Et beaucoup de religions tablent, évidemment, sur ce genre de procédé. Donc là, on a ça. Vous avez quelqu'un qui vous accuse d'être raciste, il vous suffit de baisser la tête et d'afficher l'argument massu, ben voyons, qui exprime en deux mots, en trois syllabes, qui exprime votre scepticisme radical. Et voilà, tout ça ne coûte que 21,99 €. Mais il paraît que c'est épuisé. Il paraît que c'est épuisé. Donc, non, ça, ce n'est pas un cadeau de Noël. Voilà. Je vais bientôt terminer, on a observé que lors des quatre débats tenus par les candidats républicains, quelqu'un a eu assez d'abnégation pour compter le temps de parole qui a été dévolu à chaque parti. 41% du temps a été consacré à parler immigration ou sécurité. Il y a eu aussi une partie consacrée à la culture, mais ça a été essentiellement le wokisme. Donc il faudrait encore augmenter un peu ce pourcentage. Donc voilà où nous en sommes. Alors je vais terminer sur une formule, sur une réflexion un peu plus générale. Nous sommes polarisés sur la question migratoire, mais cette polarisation n'existe pas au même degré partout. Et j'ai regardé la part des sessions des grandes associations internationales de démographie ou de population studies, c'est plus large que la démographie, la part qui est consacrée aux migrations. Donc vous voyez que c'est l'Association européenne des études de population qui consacre le plus d'importance aux migrations. 17% des sessions. Les sessions en général, c'est 4 présentations de chercheurs. Donc c'est vraiment des nombres importants. L'association américaine, c'est 13%. Alors les APS, je connais bien, j'en étais le président pendant quelques années. L'ALAP, c'est l'association latino-américaine, seulement 8%. L'Asie, seulement 7%. Alors là, c'est sidérant parce que j'ai regardé le programme en détail. Il y a une seule communication sur les migrations asiatiques vers le Golfe. Une seule. Consistant à interroger les migrants asiatiques de retour sur leurs expériences, alors que c'est une des migrations les plus massives au monde. Donc il y a un sous-investissement de la recherche dans ces pays-là sur les migrations, qui sont pourtant des phénomènes considérables chez eux, qui est quand même très impressionnant. Et puis l'Union africaine des études de population, qui n'organise son congrès que tous les 4 ans, elle a encore consacré moins que cela, seulement 5%. Donc vous avez une gradation assez révélatrice, elle est vraiment très forte, qui fait que c'est ce qu'on appelle le biais de destination, où on a essentiellement une importance considérable qui est évidemment attachée à l'étude des migrants lorsqu'ils sont chez nous, aux destinations. Et on manque cruellement de recherche sur ce qui se passe, sur les ressorts des migrations dans les continents de départ. Là, c'est vraiment un déficit considérable. Et ça, c'est ma dernière diapositive. Évidemment, on peut penser que il faudrait mobiliser davantage, en France ou ailleurs, les chercheurs qui ont eux-mêmes fait l'expérience des migrations ou qui sont issus de familles ayant l'expérience de la migration. Et ça progresse lentement, mais enfin, ça se fait. Dans l'institut que je dirige, on a de plus en plus de chercheurs issus eux-mêmes de l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un privilège. Il faut quand même qu'ils aient de la méthode, qu'ils aient la maîtrise technique, la distance, l'engagement, enfin, le dosage de distance et d'engagement qui est nécessaire dans toute recherche. Et je dirais que, pour terminer sur la question éthique que j'avais annoncée comme en guise de conclusion, il y a une règle qui a une valeur éthique forte, même si on n'y pense pas toujours, c'est qu'en démographie, comme le disait Jeremy Bentham, tout le monde compte pour un et seulement pour un. Il n'y a pas de pondération ou d'escompte qui seraient faites pour des populations lointaines ou des populations pauvres ou des populations... les petits, les grands et les petits comptent de la même façon. Tout le monde compte pour un. Alors certains disent, mais les démographes avec leurs calculettes oublient de différencier les populations en fonction de leur qualité, de leurs origines, de leurs caractéristiques, etc. Mais globalement, l'éthique implicite, une éthique, si elle est implicite, n'est peut-être pas vraiment une éthique, enfin, il faudrait y réfléchir davantage, mais il y a une éthique de la démographie, c'est que tout le monde compte et chacun compte seulement pour un. Ce qui est le principe même qui avait été énoncé par Stuart Mill et Jeremy Bentham au début du 19e siècle. Et puis il y a un second principe qui s'impose dans le domaine des migrations, c'est la réciprocité des perspectives, c'est le fait de traiter autrui comme on voudrait être traité soi-même, et c'est ce qu'on appelle la règle d'or en éthique. Et c'est là-dessus que je termine mon cours et que je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous d'entrer sereinement dans la période des fêtes. Merci beaucoup. Merci.